en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Baptiste Antoine.
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est un polar d'action qui va à un train d'enfer avec un flic séducteur à souhait et suffisamment loser et borderline pour enchaîner les catastrophes. Une histoire au cordeau qui mélange politique, secrets de famille, sexe et sorcellerie dans une Afrique du Sud où les cicatrices de l'apartheid sont encore béantes. 13 ans après le succès de son roman Zulu qui nous emmenait déjà en Afrique australe et 7 ans après son premier scénario de BD, pas avec le diptyque Maori, l'écriture scénaristique jubilatoire et au cordeau de Caryl Ferré s'allie cette fois au dessin furieusement réaliste de Corentin Rouge, qui nous plonge successivement dans la beauté des vignes, les nuits chaudes et incendiées, et la violence des townships. Sangoma, les damnés de Cape Town, de Caryl Ferré et Corentin Rouge, un album paru chez Glénat, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors celui qui vous a réuni, c'est Philippe Horry, qui est éditeur chez Glénat. Il savait en fait, Corentin Rouge, que travailler avec Caryl Ferré, ça vous déplairait sans doute pas.
En fait, oui, c'est ça. J'avais découvert le roman Zulu à sa sortie, enfin un peu après. On me l'avait offert et puis en le lisant, j'avais vraiment adoré l'histoire, adoré les visuels que ça me procurait. Et je m'étais dit, ça pourrait faire une super bande dessinée. Et donc j'en ai parlé à Philippe Horry, mon éditeur à l'époque.
Et donc lui, de son côté, il a envoyé quelques-unes de vos BD à Caryl Ferré, donc la série Rio. Hein.
C'est ça, exactement.
Et qu'est-ce qui vous a convaincu alors, Caryl Ferré, quand vous avez reçu les albums?
Ah bah dès la première couverture, ça me rappelait un peu ce style de bouquin de Giraud. J'ai grandi avec Blueberry hein, quand j'étais gamin. J'adore ce type de dessin et avec tout le décor qu'il y a autour, et c'est à la fois réaliste mais avec une touche très personnelle. Et tout de suite, j'ai dit oui. Tout de suite.
Oui, tout de suite.
Oui.
Bon, mais qu'est-ce qu'on vous avait dit sur le projet? L'idée, c'était l'Afrique du Sud. C'est aussi un élément qui a joué.
Non. En fait, Rio était tellement bien que je me demandais un petit peu qu'est-ce que je pouvais apporter à Corentin de plus. Mais il avait envie de changer un peu de continent. J'ai dit, écoute, c'est toi qui dessines. Donc, qu'est-ce que t'as envie de faire? Enfin, je crois que c'était.
Ouais. En fait, moi, j'avais envie de faire l'Afrique. Dessiner quelque chose qui se passe en Afrique. Et Caryl m'a dit, moi, ce que je connais le mieux, c'est l'Afrique du Sud, pour y avoir été, pour y avoir séjourné, vécu un peu, et puis avec toutes les recherches qu'il avait pu faire pour Zulu. Donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas, allons-y. Et là, il a tout de suite eu l'idée, je crois que c'était la première fois qu'on se voyait, en quelques minutes, il a dit, il y a un super thème, c'est la répartition des terres entre les blancs et les noirs et tous les problèmes politiques que ça suscite là-bas.
Oui, et c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est un pays que vous connaissez assez bien, en tout cas d'un point de vue romanesque, hein, Caryl Ferré, le théâtre effectivement de Zulu, sorti chez Gallimard en 2008. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous avez attiré dans ce pays-là, Caryl Ferré, au moment de Zulu?
C'est vraiment un pays de contraste. Moi, je connais surtout la région de Cape Town, en fait, la grande région de Cape Town.
Là où se déroule l'histoire.
Là où se déroule l'histoire, en fait. Les paysages sont absolument splendides. Vraiment, la Table Mountain, c'est déjà cinématographique ou bédéiste. Enfin, c'est déjà magnifique. Et surtout, c'est le paradis et l'enfer qui sont côte à côte. Il y a des townships qui débordent de partout en fait et qui arrivent à coller les banlieues blanches très huppées. Donc il y a un contraste qui est vraiment un contraste enfin idéal en tout cas pour le roman noir en tout cas.
Ouais, et donc qu'on retrouve hein, à travers ce roman aussi au cinéma, puisque Zulu, qui a aligné les prix littéraires, a été adapté au cinéma aussi par Jérôme Salle en 2013 avec Orlando Bloom et Forest Whitaker.
L'État nous avait donné carte blanche. Nous étions environ 200 scientifiques et notre mission était de mettre au point une bombe ethnique, une molécule capable de décimer la population noire.
Combien de noirs il a tué?
On a été trop gentils avec ces fils de pute, non?
Et qu'est-ce que tu aurais préféré? Des représailles?
Pas des représailles. La justice.
Ces gosses qui disparaissent du côté de Kaelitsa.
Le rapport médical indique qu'on a relevé des traces d'éphédrine et d'ammoniac dans le sang de la victime.
On cherche un type, un dénommé Stan.
Trafic de stupéfiants, cambriolage avec violence.
On doit lui parler.
Vas-y, occupe-toi de lui.
Bouge pas!
On est des policiers.
Les types sur la plage, c'était une bande organisée, comme s'ils avaient quelque chose à protéger.
Upperman, Project Coast. Un projet secret, des scientifiques et des médecins chargés par le régime de développer des armes chimiques, des virus, ce genre de merde. Tout ce qu'ils pouvaient trouver pour empêcher les Noirs de devenir plus nombreux.
Où est le chat?
On a tout ce qu'il faut pour les faire tomber.
Voici Sigel.
veux faire la paix avec ton ennemi, travaille avec ton ennemi et il devient ton partenaire. On a décidé qu'on serait capable de vivre tous ensemble. Le passé, c'est le passé.
Il y a des trucs pas faciles à pardonner.
Il y a des trucs pas faciles à pardonner, hein, comme le dit Orlando Bloom, cette phrase, car il ferait, elle pourrait finalement assez bien résumer l'état d'esprit dans lequel s'ouvre Sangoma aussi.
Oui, complètement, on a pris ce sujet parce qu'à la fois il était, c'était il y a 2 ans à peu près, hein, le temps de faire le dessin, etc. Donc on ne pouvait pas prendre un sujet d'actualité puisqu'il aurait été passé, évidemment. Et ça, c'est une problématique où tout le monde a tort et tout le monde a raison, hein, entre les noirs et les blancs.
Ouais. Donc et... cette question de la redistribution des terres, dès le départ, ça vous a paru le fil à tisser pour bâtir
ouais,
le scénario.
J'aime bien voir qu'il y ait quand même une dimension politique et pas simplement un polar avec Agatha Christie qui a tué machin. Enfin,
oui.
Voilà, ça m'intéresse pas trop. Le colonel Moutarde, c'est un peu passé. Et tandis que là, bon, voilà, ça donne un fond et surtout ça donne des personnages autour, quoi. Et ça me permettait de faire, là, vraiment. Quitte à faire quelque chose sur l'Afrique du Sud, autant faire le plus arc-en-ciel possible, hein, puisque c'est la nation arc-en-ciel. Donc, du coup, avec ces problématiques, du coup, on embrassait entre les noirs, les blancs et tout ça autour.
Oui, parce qu'il y a toute une palette, effectivement, de positionnement par rapport à cette question de la redistribution des terres et par rapport à la question de la nouvelle organisation de la société post-apartheid. Et c'est vrai que si on accepte le prologue, sur lequel on va revenir dans un instant, eh bien, la première séquence du récit nous plonge directement dans la dimension sociale, au cœur d'un vignoble, d'une exploitation viticole de cette province du Cap, un domaine familial dirigé par un Afrikaner qui s'appelle Cobus Pienaar et sa fille Eva. Et au début du récit, le père et la fille font face à la colère de leurs ouvriers, menés par un noir nommé Nelson, fils du plus ancien ouvrier du domaine, Jacob, et qui aime parfois, quand il en ressent le besoin, prendre le large avec sa moto. Nous sommes à la page 15 de l'album.
On veut une augmentation.
Ça suffit. Nos conditions de travail sont inacceptables. C'est plus possible de se crever comme ça pour un salaire de misère.
C'est fini, on n'est plus vos esclaves.
Mon père et moi comprenons vos revendications. Mais vous avez vu l'état des vignes ? Depuis que la sécheresse sévit, la production a presque réduit de moitié. On équilibre à peine les comptes.
C'est plus l'apartheid, mais on s'échine pareil pour gagner de moins en moins. La ferme est une exploitation, oui. Et c'est nous qu'on exploite. La réforme agraire va changer les choses, je vous le promets.
Je sais que tu attends, Nelson. Mais c'est toujours mon père et moi les patrons, ok ? Zéro augmentation. Pigé, maintenant, au boulot.
Eva n'a pas complètement tort, Nelson.
Ah oui ? Tu as peut-être l'habitude de prendre des coups. Mais pour moi, c'est terminé ce temps-là. Et je ne suis pas le seul à penser comme ça dans ce pays.
Ne sois pas injuste avec ton père, Nelson.
Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Qu'est-ce qui t'amuse, toi ?
Rien, mon frère. Tu t'agites, comme d'habitude.
C'est ça qui te rend si joyeux ? Qu'on continue tous de crever sur des terres volées à nos ancêtres ? Hein ?
Au secours ! Mon bébé, au secours ! Mon bébé a disparu ! Mon bébé a disparu ! Oh mon Dieu !
Calme-toi, Ngozazana. Dis-moi plutôt ce qui s'est passé.
Mon bébé ! Mon bébé faisait sa sieste. J'étais avec mes parents au champ et il n'est plus dans son berceau. Il n'était plus là quand je suis revenue.
À 2 mois, ton bébé n'a pas pu s'envoler.
Ngozazana ! Ngozazana, mon Dieu !
Ah, où est mon garçon ?
On va avertir la police. Ne t'en fais pas. On va le retrouver.
Voilà, les tensions sociales et la disparition de ce bébé noir. Là, on est à la page 18, Karine Ferret, et on a déjà les deux principaux fils de l'écheveau que vous allez dérouler pour consulter votre scénario. Alors, il y en a énormément d'autres. Hein. Donc, il y a la question de la redistribution des terres. Il y a d'ailleurs dans l'album plusieurs scènes politiques de batailles parlementaires et même de bagarres, même tout simplement, hein, parce que les débats parfois sont tellement vifs que les élus en viennent aux mains. Il y a des cadavres, il y a des secrets de famille, il y a des histoires de coucheries plus ou moins clandestines, de mafias, de gangs. Il y a de la sorcellerie. Il y a l'empreinte du sida sur l'Afrique du Sud, il y a la violence dans les townships, bref, il y a énormément d'éléments, il y en a vraiment énormément, et vous constituez comme ça un scénario extrêmement solide, c'est très riche, c'est très dense, c'est très complexe, c'est pas du tout manichéen. Comment est-ce qu'on fait, Karel Ferret, avec tous ces éléments-là, pour ne pas se perdre, quand on est scénariste de BD, pour ne pas perdre le dessinateur qui arrive ensuite, et pour perdre un tout petit peu le lecteur, parce que voilà, mais pour pas le perdre complètement quand même?
Bah, c'est un terrain de jeu. Enfin, plus on est de fous, plus on s'amuse. Hein. Enfin, et souvent pour mettre en avant les rôles principaux, en fait, et c'est bien d'avoir des seconds rôles, voire des troisièmes rôles, qui sont forts aussi, en fait, qui permettent d'avoir du punch, en fait. Et là, il y a une galerie de personnages qui est même certains qu'on voit pas beaucoup, mais on s'en souvient parce qu'ils sont assez forts. On aurait presque pu faire. Et bon, déjà, c'est une grosse BD, elle fait 150 pages peut-être. On aurait pu en faire 200. Si on avait tiré un petit peu plus sur d'autres.
Mais c'est par les personnages que vous construisez l'intrigue petit à petit. C'est-à-dire que les personnages, ils ont un caractère, ils ont une typologie, ils ont des objectifs, et ensuite vous les faites se croiser.
Oui, mais ce qui est bien, c'est de tromper un peu le lecteur, quoi. C'est-à-dire que surtout, faut pas qu'il s'attende. Enfin, s'il se dit ah bah tiens, ça va finir comme ça, bah non. Enfin, très vite, il faut qu'on lui dise ah non, en fait c'est pas ça, puis c'est pas ça non plus, c'est pas ça. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il soit un peu perdu et qu'il suive les personnages et qu'il se dise quand même, bah, tiens, où est-ce qu'on en est là. En fait, il se passe des trucs, mais je comprends pas tout, mais on va voir où on va en tout cas.
Quoi. À quoi ça ressemble, Corentin Rouge, un scénario de Caryl Ferret? Parce qu'il y a des flèches partout, il y a des schémas. C'est extrêmement détaillé ou au contraire c'est très schématique? À quoi ça ressemble?
Ben non, physiquement parlant, c'est très propre. Hein. C'était en deux étapes parce qu'il m'a proposé un synopsis, on va dire, un résumé en peut-être 3-4 pages de l'histoire avec les scènes principales et, qui avaient toute la structure, donc la structure de l'ensemble du récit. Et puis à partir de là, il a travaillé sur tous les dialogues. Il m'a donné environ 70 pages de scénario avec tous les dialogues, avec assez peu de descriptions pour les personnages, justement, parce que je crois qu'il voulait se reposer un peu de ses romans et pas avoir à les
Oui, parce que vous disiez tout à l'heure en parlant de Zulu que l'écriture de Caryl Ferret, l'écriture romanesque de Caryl Ferret, était quand même très visuelle, puisqu'elle vous avait tout de suite donné des images en tête. Là, c'était pas le cas.
Ben, là, disons qu'il m'a laissé libre d'interpréter comme je le voulais toute la galerie de personnages de l'histoire, et c'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé, où j'ai travaillé assez longtemps à trouver vraiment tous mes personnages, tout mon casting, et à partir de là, c'est par ce biais que je suis rentré dans l'histoire avec mes acteurs.
Alors, donc des acteurs, et c'est intéressant que vous utilisez le mot acteur, parce que acteur, on pense évidemment au théâtre, on pense au cinéma aussi, et vous avez un traitement d'image qui est quand même extrêmement cinématographique. Corentin Rouge, là par exemple, là, j'ai la page 32 là sous les yeux, c'est une scène avec deux personnages majeurs du récit, on les voit de loin, ensuite petit à petit on a l'impression que c'est une caméra comme ça qui se rapproche d'une case à l'autre.
Oui, alors là c'est la scène de découverte du cadavre. Et c'est vrai que c'est une option que j'ai prise qu'on voit, qui est moins naturelle en bande dessinée, où on change de point de vue en permanence, on fait des champs, des contre-champs, on change. Et là, je suis resté fixe du point de vue du cadavre, qu'on ne voit pas, parce que on laisse dans un premier temps les personnages découvrir qui est le cadavre, et nous, on ne sait pas encore qui c'est. Donc, on a une espèce de plan subjectif depuis le cadavre, et puis les deux personnages qui arrivent au-dessus.
Voilà, c'est la question du point de vue, et là, pour le coup, on est vraiment dans un traitement ciné.
Oui, exactement. Ça pourrait être un plan fixe avec les personnages qui bougent autour de nous.
Oui, donc traitement ciné, on se dit storyboard. Vous avez commencé à travailler comme ça. Vous avez storyboardé tout le récit avant de vous
apprendre. Non, j'ai pas fait ça. J'ai commencé un peu au départ pour me mettre dans le bain, mais j'ai pas voulu. L'avantage de storyboarder tout un album, c'est qu'on en a une vue d'ensemble, mais c'est aussi qu'on s'épuise un peu. On perd le feeling avec le dessin pur, je dirais. C'est-à-dire que, à force de le faire, le refaire, le temps qui passe, on est moins proche de ce qu'on veut représenter. Donc j'ai avancé du début à la fin dans l'ordre.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'a énormément étonné, c'est que très souvent, pas toujours, hein, mais très souvent dans les albums de bande dessinée, le séquençage fait que, eh bien, une séquence se termine en bas de page. Oui. Et donc on tourne la page et on change d'atmosphère, on change de lieu, on change de scène, on change de temporalité. Là non. Parfois, très souvent, à de multiples reprises dans l'album, eh bien, c'est en plein milieu d'une page qu'on tourne la page, si j'ose dire.
Ah oui, j'ai pas fait spécialement attention à ça. C'est, disons que ça dépend des fois. Je pense que parfois, on finit, en effet, ce qui est intéressant, c'est sur les scènes de jour, de nuit, où là, quand on clôture, ça donne une unité visuelle et de couleur aux pages qu'on ouvre. Mais après, de couper comme ça au milieu d'une page des scènes, c'est à la fois parce que la narration de Caryl était très, très dynamique. Et puis en même temps, oui, je pense que ça donne du punch à la lecture.
In the net, light beams, screen light, brain freeze, what is that? Sightseeing, get me back, my hands bleed, greedy as hell.
Are you really human? I can never tell. What else can you say besides? In love with a machine, it's picture time. It's just you and me. Ain't nobody else like me. Your heart's pure as gold. Finna be addicted till I'm gray and old. Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Did I do it well if I don't post? You're greedy as hell. AI girl got me under a spell. These human girls don't give me like you do. But I just searched, you so damn cute. It's just start abundance. Piling up, disconnect, so I dial it up. Can't get my hands off ya. Need to get this filter for ya, dope. Dopamine levels rising, let's keep it up there, kick. I know you know I'm addicted. Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Am I real to you if I don't post? Did I do it well if I don't post? Internet, light beams, screen light, brain freeze. What is that? Sightseeing, get me back.
My hands green.
I know it, le rappeur sud-africain Musi dans VMDN sur RFI avec Caril Ferret et Corentin Rouge pour leur album de BD Sangoma, les damnés de Cape Town aux éditions Glénat. Vous êtes allé au Cap pour dessiner cet album, Corentin
ouais.
Rouge?
Oui, oui, j'y suis allé, c'était il y a 2 ans, avec justement le scénario de Caril, et je suis parti faire mes repérages.
Vous n'êtes pas allés tous les deux en même temps, donc vous y êtes allés vraiment tout seul, avec le scénario sous le bras, si vous voulez, avec un carnet, un appareil photo aussi.
Appareil photo, ouais. Oui. Et j'ai été sur tous les lieux de l'histoire, et j'ai bombardé tout ce que je pouvais.
D'accord, donc le scénario vous a servi de guide touristique, en quelque sorte, si je veux dire. Donc l'idée, c'était d'illustrer les mots. Vous êtes parti dans cette optique-là?
Non, je suis parti pour voir les lieux dans lesquels pouvait potentiellement se dérouler l'histoire, parce que c'était à la fois assez précis, mais pour ce qui était des bars, des fermes, c'était à moi de trouver ce qui était le plus marquant visuellement.
Donc il y a des paysages absolument grandioses, hein, Caril Ferret, vous le notiez vous-même tout à l'heure, la côte balnéaire de Camps Bay, qui est la banlieue chic du Cap, les vignobles, hein, évidemment, que vous dessinez en particulier au début de l'album. Il y a aussi un paysage aérien comme ça au tout début, c'est absolument magnifique. Vue aérienne aussi avec des vautours, là c'est tout de suite moins gai, hein, quand on est aujourd'hui.
Ah oui, les vautours qui rôdent autour du cadavre.
Voilà. Et puis, il y a les townships aussi, en particulier celui de Mitchell Spain. Vous êtes aventuré dans cet endroit-là, Caril Ferret?
En fait, ce qui est assez drôle, enfin, façon de parler, hein, c'est que c'est le seul endroit où je suis pas allé jamais, enfin, où j'étais pas allé, en fait, jusqu'au tournage, parce qu'en fait, c'est un véritable coupe-gorge, mais les flics n'y vont pas. Et en fait, pendant le tournage de Zulu, j'étais invité là-bas, et en fait, Jérôme Salles s'est débrouillé, c'est en concours de circonstances, en tout cas, donc le tournage s'est fait à Mitchell's Plain, en fait. Mais ceux qui faisaient la sécurité, c'était les vrais gangsters, en fait.
Ah, d'accord.
Qui, pour une fois, disaient, c'est la première fois qu'on gagne de l'argent, légalement, en fait. Ouais. Et la moitié des méchants du film Zulu, ce sont des vrais méchants, et ils font vraiment peur, mais du coup, c'est la seule fois où je pouvais discuter avec eux, etc. Donc c'est assez drôle.
Bon, vous n'avez pas conclu un contrat avec les gangs, vous aussi, pour dessiner, Corentin?
Non.
Vous
n'y
êtes pas allé tout seul à Mitchell's Plain?
Non.
Donc vous êtes basé sur quoi? Sur les scènes du film Zulu, alors?
Moi, j'ai visité un township en allant là-bas. Après, j'ai pu visiter aussi un healer, un guérisseur, dans un township, et puis ensuite Oui, pour les scènes un peu d'action, et on voit sur Internet, il y a pas mal de reconstitutions possibles, mais avec ma documentation, j'avais déjà beaucoup d'éléments.
Alors il y a effectivement ces guérisseurs. Guérisseur, c'est Sangoma, c'est un peu la même chose.
Oui,
healer et Sangoma, c'est le nom sud-africain.
C'est
le nom sud-africain, donc ce sont des guérisseurs qui ont recours à la médecine traditionnelle, y compris parfois pour soigner de vraies maladies, et pas des moindres.
En fait, il y a eu une telle dérive dans les années 90 et 2000, surtout autour du sida, en fait, et en fait, pouvait se déclarer Sangoma à peu près n'importe qui. Donc, il y a évidemment plein de charlatans. Et comme l'État sud-africain de l'époque, c'est très compliqué le sida là-bas. Hein. Enfin,
ouais. En tout cas, Jacob Zuma, en particulier, le président, successeur de Nelson Mandela.
Mais Mbeki aussi, hein, il disait, mais on peut soigner le sida, c'est une maladie de blanc, on va encore nous accuser, nous les noirs, d'être, aller pas bien, nanana. Et avec du jus de l'ail et du jus de citron, on peut soigner le sida, après les rapports sexuels. Bon, vraiment, une ineptie totale qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et donc, l'État sud-africain a un peu, s'est dit, ça donne pas une très bonne image. Et puis, en plus, du coup, je vais pas spoiler, mais il y a une des pratiques qu'on a utilisées dans le livre, donc je ne vais pas révéler.
Non, mais c'est, qui est effectivement extrêmement marquante. Et je pense on peut pas sortir de l'album indemne quand on a lu une chose pareille. Invention totale ou inspirée de fait réel?
Non, inspirée de fait réel. Tout ce qui est horrible, c'est inspiré de fait réel.
D'accord, malheureusement. Ok, en tout cas, il y a donc plusieurs Sangoma, plusieurs guérisseurs dans l'album, mais notamment, il y a une Sangoma qui s'appelle Tiger, Corentin Rouge. Alors, comment est-ce que vous l'avez imaginé graphiquement? Parce qu'on dirait presque un personnage de la mythologie, quoi.
Ah oui, c'est...
Il y a un petit côté gorgone.
Oui. Non, là, je saurais pas dire. C'est disons que visuellement, je la voyais comme typologie assez sèche, assez fine. Donc les dreadlocks, la coiffure, c'est venu sous le fil du crayon, là.
Oui, avec toujours des traits du visage extrêmement marqués et extrêmement expressifs. Parce que c'est ça, vous êtes vraiment un dessinateur réaliste, Corentin Rouge. Et en même temps un dessinateur extrêmement expressif. Où justement on place la limite entre le réel et l'expressivité du personnage?
C'est là que tout se joue. C'est-à-dire que une fois que j'ai trouvé mes personnages, mes acteurs, j'essaye de bien les caractériser, de limite en avoir un peu la caricature en main, pour pouvoir jouer avec ça au moment de les rendre expressifs. Et c'est vrai que j'aime bien essayer de trouver l'émotion juste, la bonne attitude de mes personnages.
Donc, personnage impressionnant, effectivement, que Tiger. Son antre aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est avec l'antre de Tiger, si j'ose dire. Je sais pas si le tigre a un ancre. Enfin bref, peu importe, toujours est-il que c'est... en entrant dans cette tanière, en quelque sorte, que le lecteur entre lui-même dans l'album.
Ouais, c'est ça. On a utilisé cette image pour la page titre du livre. Ça avait été un moment une option de couverture possible, et puis on est parti sur une autre idée, mais c'était une façon de plonger vraiment dans le côté mystérieux de l'album, le lecteur, dès le départ.
Alors, dès le départ, justement, l'album, il commence par un prologue, 5 pages, dont l'action se passe 25 ans avant le récit proprement dit. Alors, on est dans une teinte un peu sépia, un peu plus marron. Ouais. Et les 3 premières pages nous montrent une chasse à l'homme, avec des blancs qui tentent de rattraper un noir en fuite, qui lance des molosses avec des babines dégoulinantes. Enfin, c'est vraiment là aussi très, 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 très impressionnant. C'est d'une violence extrême. C'est une scène muette, Caril Ferré. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité, là, l'un et l'autre, je sais pas qui a eu l'idée, commencer cet album par une scène sans voix, sans bruit, alors qu'il y a énormément de bruit et de fureur, si j'ose dire, dans cette scène?
Ouais, mais c'est comme un prologue, c'est comme un chapitre zéro. Moi, j'aime bien donner un impact dès le début. Et en plus, cette scène, elle a un côté, entre guillemets, classique du sens où, enfin, en tout cas, quand c'est l'apartheid et puis tout le sort qui a été réservé population noire pendant les siècles, sauf que évidemment il se passe un truc que je ne vais pas révéler, il y a un écho qu'on va découvrir par la suite et tout de suite quand on arrive sur la scène 1, on se dit « Ah ouais, c'est les mêmes qui... »
Voilà, exactement. Parce qu'en plus, il y a un effet miroir dans l'album. Hein, donc, il y a 2 personnages qui sont en gros plan, 2 personnages assez jeunes qui sont en gros plan au début de l'album et qu'on retrouve en gros plan inversé quelques années plus tard dans les toutes dernières pages de l'album, effectivement. On peut dire un tout petit mot de ces 2 personnages-là, Caril Ferré, ou vous préférez quand même garder le mystère? Pas forcément sur la situation dans laquelle vous avez mise, mais sur leur situation et leur positionnement l'un par rapport à l'autre.
Ça aurait pu être les deux personnages principaux du livre, en fait. On était parti plutôt, Corentin avait plutôt envie que ce soit... Je sais plus exactement qui avait décidé de quoi. En tout cas, enfin, il y avait un flic. Hein, je pense que
on était. Oui, on va parler du flic dans un instant. On va y venir, rassurez-vous.
Mais c'est les deux personnages secondaires qui auraient pu être les personnages principaux. Mais voilà, on a décidé d'élargir et pas simplement rester à un problème noir-blanc.
Oui, là, vous venez de dire, Karine Ferré, je ne sais plus qui a décidé quoi exactement. Comment est-ce que vous avez justement travaillé tous les deux? Parce que parfois, on se dit, le scénariste donne son scénario, le dessinateur dessine. Il n'y a pas énormément d'aller-retour. Parfois, on a l'impression que, au contraire, les auteurs travaillent vraiment de A jusqu'à Z ensemble et qu'ils avancent planche après planche. Comment vous avez fait?
Non, mais là, c'était super. Parce que j'ai écrit une autre BD où j'ai rencontré le dessinateur plus tard. Donc, effectivement, j'ai livré un scénario, entre guillemets, clé en main, sans savoir même qui allait dessiner. Et franchement, c'était pas une expérience très enrichissante humainement. Parce que quand on s'est rencontré plus tard, mais il était sympa, mais bon, so what, quoi. Mais là, avec Corentin, tout de suite... dès le synopsis, alors c'était pas 3 pages, hein, c'était quand même 15. Donc il y avait quand même de la matière. Non, mais bon, c'est dessinateur. Ouais, il m'a fait 2-3 pages un peu pourries et tout. Non, il y avait quand même 15 pages qui étaient quand même assez développées. Mais justement, en fait, comme Corentin est un super metteur en scène, vous l'avez souligné, parce que c'est lui qui fait la mise en scène. Et pour moi, c'est hyper important parce que je suis pas dessinateur et je trouve que pour ce qui me concerne, hein, je dis pas tous les scénaristes, mais prendre la main sur bah tiens, tu vas dessiner ça, tu vas aller comme ci comme ça. Pour moi, c'est vraiment marcher sur les plates-bandes du dessinateur.
Donc vous l'avez laissé complètement libre. Fais ce que tu veux. Ah, voilà, ben, les personnages, voilà l'action. Après, tu mets ça en image comme tu l'entends.
Il y avait tout le déroulé en fait. Hein. Il y a le rythme, ça c'est bon, bah ça c'était déjà préécrit quoi. Et par contre, la façon dont quand je mets
oui, la mise en page.
Ouais, gros plan sur le Table Mountain. Il fait ce qu'il veut. Et pendant le scénario, en fait, pendant l'écriture, Corentin aussi a rebondi sur des trucs, des petites incohérences, des trucs qui me disent, ah ben tiens, peut-être qu'on pourrait trouver aussi un autre personnage aussi. Et donc, en fait, c'était aussi un work in progress dès le synopsis. Et après, quand il a commencé à dessiner, mais peut-être des mois plus tard, on s'est toujours vu tous les X mois. Et au fur et à mesure, même du dessin, on a continué à retravailler le scénario. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, il y a eu toujours des petites modifications, des choses qu'on fait, que c'était vraiment un work in progress, vraiment ensemble, quoi. Umhlaba kungehlule Impilo le ayikholula Sungama kasi kunakele Dobothela yakhe ngaphezulu Kunakele Umhlaba kungehlule Impilo le ayikholula Kholo moya wamoya fisa ukwenza kahle Ongumhlaba kungehlule Kholo moya womoya fisa ukwenza kahle Impilo le ayikho lula Kholo moya wami Kholo moya wami Kholo moya wami Hey Ngaphezulu kunakile Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula Sungama kasi kunakile Dobothelo yakhe ngaphezulu kunakile Ubumhlaba kungehlule Impilo le ayikho lula
Sola Moya Wam Nomsebo Zikode dans VMDN sur RFI. Nos invités aujourd'hui, les deux auteurs de la bande dessinée Sangoma, Les damnés de Cape Town. J'ai nommé le dessinateur Corentin Rouge et le scénariste Caril Ferré. C'est aux éditions Glénat. Alors cette BD, c'est un polar. Caril Ferré, fallait donc un cadavre, au moins un, et un enquêteur. Le cadavre, c'est celui d'un ouvrier agricole dont le corps est retrouvé dans le vignoble des Pienards, ces africanaires du Cap. Et puis l'enquêteur, c'est un blanc. C'est un lieutenant de police qui s'appelle Shane Shepard. Vous pouvez nous le présenter?
Ben, comme il est, comme le sujet est assez grave, enfin en tout cas politique, et puis bon aujourd'hui en plus c'est très compliqué d'être porte-parole d'autres genres. Bon, donc je veux un personnage qui soit un peu au-dessus du lot, avec à la fois léger, complètement impliqué dans son métier quand même parce qu'il côtoie le pire, mais c'est aussi parce que tu côtoies le pire que t'as, on voit souvent que les médecins légistes, etc., ils essaient de faire des blagues pour pouvoir respirer un petit peu. Et donc ouais, je veux un personnage à la fois très contrasté, en tout cas
oui, il a un vrai côté de dilettante et en même temps il fait son boulot de flic sérieusement. Voilà. Ouais.
Un peu un loser flamboyant, en fait, oui, quoi. Un esthète de la catastrophe, en fait.
Voilà, oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'au début, la première scène dans laquelle il rencontre le lecteur, elle n'est pas précisément à son avantage, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais c'est bien, parce que comme il est séducteur, beau mec, et tout, donc évidemment, on ne voulait pas le beau blanc, toi, qui domine la jolie noire, mais qui est juste là pour faire potiche. Donc c'est lui qui se fait jeter.
Voilà.
Donc voilà, ouais. Ça commence comme
à
ça.
À un moment pas particulièrement agréable pour lui, non. Donc c'est quand même assez drôle. Vous avez bien dû vous marrer en dessiner ça, hein, Corentin Rouge. Et donc Shane Shepard entretient justement, puisque bon, on le disait un peu entre les lignes, il y a une liaison avec Amy, cette très belle jeune femme noire aux mœurs assez libres, dirons-nous. Amy qui a des relations un peu compliquées avec son papa, qui s'appelle Mark Savella. Alors, il se trouve que Mark Savella, son épouse s'appelle Winnie, comme Winnie Mandela, et on se dit, quand on lit les dialogues, qu'en fait, Caril Ferré, Savella, c'est le personnage qui se rapproche le plus de Mandela.
Complètement. Nelson Mandela, c'est mon héros absolu, je trouve que c'est l'intelligence incarnée, la classe, enfin, tous les niveaux, l'humour, enfin, tout. Et en ces temps qui sont, je trouve que ce qui est bien dans Sangoma, c'est que ça fait vraiment écho à notre époque, à ce qu'on vit aujourd'hui, même si ça se passe en Afrique du Sud, franchement, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, où la raison n'a pas la cote aujourd'hui, quoi. Il faut être excessif. Alors pourtant, j'aime l'excès, mais pas l'extrémisme, où c'est, le monde n'est pas noir ou blanc. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu ça, en fait, ce qui arrive, y compris en France. Et dès que tu essaies d'être, de ramener les choses à la raison, tu te fais traiter de tiède, ou carrément de traître, ou de social traître, ou de néo-facho, enfin n'importe quoi en tout cas. Et donc Mandela, c'est la voix de l'intelligence et de la raison. Et donc ce personnage, effectivement, là, il y a pas, c'est vraiment lui. Hein. Enfin, c'est l'idée de Mandela.
C'est l'idée de Mandela. Donc voilà, qui est à la fois un homme politique impliqué dans la vie de la cité, et puis un père avec donc cette relation un peu complexe avec sa fille Amy. Et en fait, la réconciliation telle que vous la traitez, messieurs, dans l'album, c'est une tâche dont on se rend compte qu'elle est vraiment particulièrement ardue, notamment justement à travers cette épineuse question du partage des terres. Et c'est une occasion en fait pour l'ensemble des camps extrémistes, d'un côté comme de l'autre, de torpiller ensemble quoi le processus de réconciliation. C'est l'alliance des extrêmes contre la modération et contre la raison.
Oui, contre la République et contre les démocraties, etc. Mais on l'avait déjà vu en Allemagne dans les années 30, hein, en fait. Hein, les nazis et les communistes s'étaient tout à fait alliés contre la démocratie pour se dire, une fois qu'on aura eu la démocratie, on réglera nos comptes. C'est pour ça que je trouve que ça fait écho aussi aujourd'hui entre l'extrême droite et puis la woke culture, en tout cas, qui est complètement intransigeante d'un autre côté. Et toutes les voix qui sont au milieu sont sommées de se taire. Non. Enfin, moi, je reste dans la démocratie. Et...
Voilà. Et c'est vrai que le récit lui-même, il n'est pas du tout manichéen. Est-ce que vous diriez, Caril Ferré, qu'il y a des arguments sérieux des deux côtés en ce qui concerne justement cette question du partage des terres?
Complètement. Vraiment. Enfin, moi, je voulais pas donner. Enfin, je n'ai pas de.
Sans prendre parti, parce que c'est pas votre rôle non plus, d'ailleurs.
Bah non,
mais vous montrez justement un éventail d'arguments et on peut penser que certains peuvent s'entendre, quelle que soit la position qu'on prend.
Tout le monde a raison, mais tout le monde a tort. C'est-à-dire que si les gens restent sur leur position, on s'entendra jamais, en fait, quoi. Et le passage de Savella, il est réconciliateur, en fait, pacificateur, et souvent, c'est sur eux qu'on tape, en fait, quoi.
Voilà. Donc, bah, ouais, il est au milieu, il est au milieu de la bagarre et c'est lui qui prend les coups. Quoi.
Exactement, mais c'est pareil avec sa fille sur l'affirmative action. Donc il y a c'est plein de sujets en fait. C'est un livre sur la réconciliation. Au niveau presque philosophique.
Voilà, un livre sur la réconciliation, et en même temps, il y a des scènes extrêmement violentes dans l'album, notamment des scènes de nuit avec des terres et des bâtiments incendiés. Corentin Rouge, c'est compliqué de faire de belles scènes de nuit.
De nuit, c'est...
Parce qu'au cinéma, c'est toujours très compliqué, les scènes de nuit, beaucoup plus que les scènes de jour. Est-ce que c'est pareil en bande dessinée?
Non, il n'y a pas les mêmes difficultés techniques. Après, c'est... Ça peut être beau visuellement parce que c'est toujours très contrasté. Donc là, c'était à chaque fois qu'il y a des scènes de nuit dans l'album, c'est toujours aussi des scènes d'action. Donc c'est plutôt ça, la difficulté, c'est de réussir à bien les rendre ce mouvement, à apprendre le lecteur, à ce qu'il ait l'impression de tout comprendre, de que tout soit simple pour lui et qu'il ait l'impression de bouger autant que les personnages.
Oui, alors justement, la question du mouvement, c'est vrai qu'elle est au cœur des scènes d'action. Comment ça se dessine, le mouvement? Comment est-ce qu'on peut... là, je pense à une autre scène qui est une scène de poursuite en voiture, se passe dans le fameux township qu'on évoquait tout à l'heure. Comment montrer qu'une voiture va vite? Comment montrer cette violence-là? Ça passe par quoi dans le trait, Corentin Rouge? Là, c'est une scène de cinéma pour le coup. Hein. Il y a des traits de vitesse. Vous faites des espèces de halo blanc comme ça. C'est très spectaculaire.
Oui, j'essaye de le dessin, c'est choisir un point de vue pour le lecteur. C'est le placer quelque part. Donc, j'essaye toujours de trouver l'angle ou le positionnement qui va le mettre au cœur de l'action, au cœur de là où ça bouge le plus au moment de l'histoire. Enfin, au moment de la scène. Donc c'est un peu ça ma façon de procéder, trouver par des gros plans, des contrastes de gros plans, de vues d'ensemble, l'impression que les choses défilent, vont vite.
Voilà. Oui, avec des gros plans sur les visages là aussi qui
essayer
pour le coup
de travailler ce contraste entre l'émotion que les personnages ont à vivre ce qu'ils vivent et puis en même temps le déploiement dans l'espace, par exemple des voitures dans une course-poursuite, qu'est-ce que ça produit au niveau du décor, du township, des spectateurs, des gens autour, et en même temps toujours rester proche de l'émotion des personnes, des personnages, du flic en l'occurrence.
Oui, voit aussi les balles qui sortent des flingues, aussi c'est toujours très très spectaculaire. Ça s'écrit comment une scène d'action comme ça, Karel Ferré? Parce que là, pour le coup, c'est quand même d'abord le visuel qui conduit, si j'ose dire.
Ben complètement, enfin, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les planches, elles sont pas finies, on change pas de scène, c'est tout en mouvement. Et Corentin, très vite, sur le découpage, je dis que moi, je préfère que tu sois libre et que j'avais pas aimé, moi, de devoir hacher le travail sur les planches. Donc, en fait, j'ai envie de continuer. Et il m'a dit, ah non, mais par contre, t'embêtes pas sur les... Parce qu'il y avait déjà, il y avait une scène de poursuite de voiture. Il dit, t'embêtes pas à me dire combien de cases il y a. Tu me dis juste l'action qu'il y a. Et si j'ai envie de mettre 6 cases ou 12, ça sera au feeling, en fait. Quoi.
Et votre petite expérience de western avec votre papa, Michel Rouge, Corentin Rouge, ça vous a servi, justement, dans ces scènes-là? Parce que parfois, on se dit, mais on est dans le western, quand on est dans du rodéo, on est dans une scène de poursuite à cheval, sauf que c'est des jeux fiscaux. Ouais.
C'est vrai que c'est plutôt l'approche, en général, du dessin avec mon père, que j'ai eu tout petit. Donc, c'est un feeling de global avec la BD, avec la bande dessinée. Après, sur les scènes d'action, c'est vraiment, je dirais, il faut tout visualiser dans son esprit, comme une scène de théâtre. On visualise les temporalités, le déroulé, et puis ensuite on essaie de l'illustrer au mieux. Et c'est vrai qu'avec la narration de Karil, j'avais la liberté de développer ça sur 5, 6, 7 pages, de savoir à quel moment couper mes pages. Donc il y a cette fluidité, cette dynamique qui, je pense, sont rendues par cette liberté aussi qui m'a laissé.
Alors, il y a les scènes d'action et puis il y a des scènes qui sont beaucoup plus posées, des scènes de dialogue où on montre justement toute la dimension politique et sociétale du récit. Karel Ferré, comment est-ce que l'on dose justement l'ensemble de tous ces éléments-là pour en faire un album à la fois palpitant et clair?
C'est peut-être un peu le roman, en fait, hein, qui m'a donné ça. Enfin, moi, je crée les scénarios de films aussi, quoi. Mais moi j'aime peut-être que mon école, moi c'est l'école du cinéma américain des années 70 en fait, quoi, qui était à la fois Peckinpah, donc t'as tout, enfin je dis Peckinpah et d'autres, hein, et à la fois des scènes de violence, d'amour, d'émotion. Moi j'aime bien que quand il y a tout, quoi.
Il y a tout. Donc effectivement, c'est un art total, hein, comme le cinéma ou comme effectivement la bande dessinée, les mots et l'image. Dernière question pour vous, Corentin Rouche. C'est une tradition aussi dans l'émission. On demande toujours de commenter la couverture. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà la couverture, puisqu'on est à la radio, et nous expliquer vos choix graphiques?
Alors la couverture, c'est ça reprend cette scène de la voiture du héros Jane Shepherd qui s'engouffre dans le township. Donc il a sa vieille Ford et il s'engouffre dans ce township à perte de vue, un peu désertique, avec donc une espèce de climat d'inquiétude, de mystère, d'angoisse qui je pense interroge. Et puis en même temps on a figuré le regard à moitié aveugle d'un des Sangoma que va croiser le personnage. Donc il y a ce contraste un peu du gros plan, super gros plan sur les yeux, et d'une vue aérienne très vaste qui permet d'inviter le lecteur. Voilà.
Avec donc ce Sangoma qui est plutôt vert, alors que le bas de la page, donc le township, lui, il est plutôt jaune.
Oui, il y a un dégradé comme ça. Visuel, graphique, il n'y a pas de raison philosophique particulière, mais il y a ce contraste entre le personnage, le décor, et puis l'intérieur et l'extérieur, la luminosité, l'aspect un peu plus sombre et inquiétant de l'histoire.
Voilà, et vous avez travaillé les couleurs avec un certain Alexandre Bouc, qui est, je crois, le neveu du grand François Bouc, c'est
exactement,
ça?
Exactement, oui. Il m'a aidé à travailler sur une bonne partie de l'album.
Vous êtes un auteur de bande dessinée maintenant, Caril Fer, et ça fait votre troisième album. C'est une carrière parallèle du roman. C'est un plus pour vous.
Mais moi, je fais
une tour pour la soif.
Non. Moi, je fais de tout beaucoup. Enfin, le roman prend le plus de temps, mais je fais du cinéma, du théâtre, des chansons, des spectacles, tout ça. Mais la BD, ça faisait longtemps j'ai grandi avec la BD, alors je suis pas du tout un spécialiste comme vous, mais j'ai toujours été amateur, en tout cas. Et là, avec Corentin, c'est une vraie rencontre. Enfin, c'est un bonheur de travailler avec quelqu'un qui a autant de talent.
Voilà, et bonheur de lire aussi, effectivement, cet album qui est vraiment très, très passionnant. Il faut prendre le temps, vraiment, de s'imprégner des dialogues, de s'imprégner des dessins. Merci beaucoup à tous les deux, Caril Ferret et Corentin Rouche. L'album Sangoma, aux éditions Glénat.
Je garde en moi le doux secret, le rêve de toutes ces vies passées. J'entends dans le son de nos voix le silence et l'éternité. J'irai chasser le désarroi, il n'aurait pas lieu d'exister. Le temps qui passe ne nous dit pas s'il fait chaud ou froid d'espérer. Là dans le tendre, le délicat, vivre dans la lumière de mes choix. Je garde en moi le bel été de ce qui n'aura pu durer. Je vois tous les soleils cachés, les ombres qu'on ne peut éviter. Je vois les mystères d'autrefois, toujours encore d'actualité. Le temps qui passe ne nous dit pas s'il nous faut pas les percer.
La lumière de mes choix, Amina dans VMDN sur RFI, ce qui nous amène en Tunisie, où l'héritage de l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi est encore méconnu. À l'occasion d'un book club, les membres de l'association Aswat Nissa, qui défend les droits des femmes, revisitent le combat de Gisèle Halimi à la lumière des luttes féministes tunisiennes, et ce sur la base du livre d'Annick Cojan, Une farouche liberté, à Tunis pour VMDN, Lilia Blaise.
Dans toute ma démarche féministe, car vous me rendez très bien compte que je suis moins reçue que d'autres, parce que j'ai trois enfants. Et parce que je les ai choisis.
C'est dans une ambiance feutrée, avec le visionnage d'une interview de Gisèle Halimi en 1976, que commence le club de lecture féministe consacré à cette militante.
C'est un livre qui est écrit par Annick Cojan et Gisèle Halimi, c'est une interview. Annick Cojan, c'est une journaliste filement.
Dans les locaux de l'association de défense du droit des femmes, Aswat Nissa, en plein centre-ville de Tunis, chacun discute de l'héritage de cette avocate franco-tunisienne née à La Goulette dans la capitale.
Donc, Esmezaïm Brahami, je vais bientôt avoir 27 ans. Je suis Zeydab Instagrammeuse, je fais d'autres choses maintenant dans la vie. Je suis prof de français, où j'essaie à chaque fois de sensibiliser les gens qui me suivent à l'importance de la lecture.
Le club de lecture, mis en place depuis 2 ans, attire de nombreux fans. Une aubaine pour Emna Amami, jeune médecin et lectrice passionnée.
Le premier bouquin féministe que j'ai lu, c'était La cause des femmes de Gisèle Halimi.
En fait, extraordinaire dans la lutte de Gisèle Halimi, c'est qu'elle était féministe intersectionnelle avant bien la naissance du féminisme intersectionnel. Elle se battait contre toute forme d'injustice, comme elle le dit.
Les combats de Gisèle Halimi, notamment dans son enfance, pour avoir les mêmes droits que ses frères, résonnent encore aujourd'hui.
Même ce qu'elle raconte comme expérience sociale et familiale, patriarcale, dans une famille tunisienne, je trouve que ça existe toujours.
D'autres, comme Yassine Jrad, questionnent son héritage féministe en Tunisie, où elle a peu milité, contrairement à la France.
Pourquoi est-elle absente de l'histoire féministe en Tunisie alors qu'on la voit dans les luttes féministes en Algérie ou encore en France? Par exemple, quand elle a fait son plaidoyer en faveur de l'avortement, elle parle très peu de l'exemple tunisien, alors que nous étions les premiers à voter une loi en faveur de l'avortement, bien avant la France.
Un personnage qui fascine, mais que les Tunisiens auraient aimé mieux connaître, selon Sonia Benmiled, responsable de la communication à Aswat Nissa. Elle milite pour faire découvrir au sein du book club des auteurs de différents horizons.
On a essayé de choisir des auteurs de la région MENA. Donc on est loin un petit peu de Simone de Beauvoir et Virginia Woolf qui reviennent toujours à chaque fois qu'on dit féminisme, lecture féministe. Et on oublie toutes les auteurs d'origine africaine ou du Moyen-Orient.
Aujourd'hui, l'influence féministe de Gisèle Halimi est d'autant plus importante dans le pays, car malgré le vote d'une loi fondamentale contre les violences faites aux femmes en 2017, de nombreuses problématiques persistent, selon l'un des participants au débat, qui se surnomme Othello, bookstagrammeur de 21 ans.
Je vous mets un exemple typique. Aujourd'hui, j'étais dans le taxi pour revenir ici. Le taxi m'a demandé où allez-vous. Je lui ai dit que j'allais aller dans une ONG féministe. Il m'a dit que qu'est-ce que vous avez à foutre des féministes? Vous êtes un homme. En fait, déjà, rien que là, ça en dit long sur la mentalité de tout le monde. Mon père, il me disait ça. Il me dit, c'est la cause des femmes, ça ne te regarde pas.
Pour faire bouger les lignes, Othello aurait aimé que le livre d'Annick Cojan soit plus accessible en Tunisie.
Héritage qu'elle n'a pas laissé et qui, pour moi, est déjà inaccessible de base, c'est l'édition de son livre qu'elle a choisi d'éditer en France. Et l'euro, il est égal à 4 dinars aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Un livre à 18 euros, il arrive ici à 80 dinars.
Afin de pallier ce prix rébarbatif, l'association Aswat Nissa met à disposition des exemplaires du livre gratuitement. Une manière de continuer le débat autour de Gisèle Halimi, plus d'un an après sa mort. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Une pause et c'est le journal sur RFI. On se retrouve demain avec Francis Huster qui vient nous présenter son dictionnaire amoureux du théâtre, ou dictionnaire amoureux de Molière plus exactement, qui vient de sortir chez Plon et vous m'en direz des nouvelles. RFI, la sélection.